Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Ça, c'était la semaine dernière. Bonsoir et soyez les bienvenus dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org avec ce soir dans les studios Jean-Yves.
Bonsoir Fab.
Et à la technique, il y a l'inénarrable Clara.
Bonsoir.
Voilà. C'est la causerie qui démarre parce que c'est dimanche et c'est 22h. Et donc, si vous voulez nous joindre, c'est lacauseriecanu@gmail.com. Voilà, lacauseriecanu@gmail.com. Si vous voulez aller voir le blog, c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie ou sinon vous allez sur radiocanu.org quand ça marche et vous cherchez la causerie et vous trouverez la page de l'émission. Alors je disais quand ça marche parce qu'on a quelques soucis avec notre opérateur internet qui nous donne pas la bonne box et du coup ça coupe tout. Ah voilà, donc on va le dénoncer ouvertement ce soir. Donnez-nous la bonne box, bon sang.
C'est ça.
Voilà. Monsieur Clémentine.
Je sais pas à qui. On m'entend?
Oui, c'est Orange.
Ok, je m'entends pas.
C'est Orange chez nous, je crois. Donc voilà, Monsieur Clément.
Ok, d'accord.
Donc voilà. Donc du coup, ça c'était pour dire. Et sinon, on est. Oui,
ah oui,
Clémentine,
okay.
Orange. Ouais, c'est voilà, il suit rien ce soir. Et donc du coup.
Non, c'est que je suis habitué à l'humour de qualité.
Bon.
Donc, allez, on y va.
On y va. Donc, sinon, on est sur les podcasts. Donc, vous cherchez sur les diffuseurs de podcasts, vous cherchez la causerie Canu, vous nous trouverez normalement sur quasiment tous les diffuseurs de podcasts. Et on est aussi présent sur un espace socio-commercial, sur Facebook. Voilà. Mais ne nous parlez pas sur Facebook. On n'aime pas les gens. Non, préférez venir nous parler sur les blogs ou sur le mail.
Voilà, bah oui, n'hésitez pas à faire vos retours.
Par contre, n'hésitez pas à nous parler, à faire vos retours, à nous proposer des trucs, on est toujours partant.
Bah ouais.
Voilà, et ce soir, c'est Jean-Yves qui va démarrer en nous parlant du fait qu'il n'y a plus d'argent pour les retraites, tout ça, et t'en as la preuve.
Mais ouais, grave. Ce soir, effectivement, j'ai envie de vous parler d'argent. Ouais, encore. Faut dire que dans un monde régi, entre autres, par la thune, c'est quand même un sujet, en fait, l'argent, hein, et sa répartition, surtout. Donc, le 30 octobre 2022, je vous avais parlé du rapport scientifique qui était réalisé par le Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques et l'Institut de recherche économique et sociale pour les syndicats à l'initiative de la CGT. L'intitulé de ce rapport était, enfin, est toujours, tu me diras, « Un capitalisme sous perfusion, mesures, théories, et effets macroéconomiques des aides publiques aux entreprises françaises. »
Tu peux le redire plus vite ? Non, je plaisante.
Mais c'est qu'il est drôle.
Mais oui.
Donc, à cette occasion, je vous avais parlé rapidement aussi, entre autres, au-delà du rapport dont je viens de vous citer le nom, des dividendes en fait, qui étaient versés aux actionnaires. Je souhaitais revenir un petit peu dessus, un petit peu plus longuement en fait que la dernière fois, parce que vraiment, enfin à ce moment-là, à l'époque dans l'émission, j'avais juste vraiment vite fait cité le montant des dividendes, mais je trouve que ça peut être intéressant de creuser un petit peu plus.
Ah, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est un dividende ?
Alors, un dividende, comment dire, c'est la part dans, tu me corrigeras, hein, parce que c'est dans les bénéfices. c'est la part que les entreprises vont verser à leurs actionnaires.
C'est ça. Mais c'était pour que tout le monde sache de quoi on parle.
Mais ouais. Alors.
Et d'ailleurs, pas forcément dans les bénéfices, c'est toute part versée aux actionnaires.
Ouais.
Parce qu'il y a des entreprises qui ne font pas de bénéfices, mais qui s'endettent pour verser des dividendes.
Ouais, quand même. Oui, c'est vrai. Tu fais bien de le relever. Alors déjà, pour rappel, hein, pour celles et ceux qui n'étaient pas à l'écoute, justement, en octobre, en France, hein, la thune versée aux actionnaires est d'un montant pour 2022 de 80,1 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 80,1 milliards d'euros. Et j'invente pas ce chiffre, hein, vous le trouverez sur Internet, sur tous les sites parlant d'économie, et pas que d'ailleurs, parce que c'est vraiment... c'est des chiffres qui sont souvent repris par beaucoup de monde. Alors, ces 80,1 milliards d'euros, hein, je le répète pour que tout le monde l'intègre bien, se composent donc en deux catégories, on va dire. Il y a 23,7 milliards d'euros qui ont été, on va dire, versés, ou en tout cas qui ont été utilisés pour le rachat d'actions, et 56,4 milliards qui ont été versés aux actionnaires sous forme de dividendes. Alors avant de continuer plus loin, justement quelques mots sur les rachats d'actions. En fait, c'est une pratique, en tout cas c'est des mots qu'on peut entendre régulièrement pour qui s'intéresse un tout petit peu au capitalisme ou l'actionnariat. Et je me disais que bah, l'expliquer vite fait, ça pourrait être utile aussi. Alors une opération de rachat d'actions est tout d'abord un moyen pour l'entreprise de redistribuer des fonds à ses actionnaires de manière similaire aux dividendes. Mais c'est un petit peu plus subtil. En effet, en fait, le rachat d'actions réduit par définition le nombre d'actions en circulation. Ce qui signifie que chaque actionnaire détient, après le rachat d'actions, hein, bah, un plus grand pourcentage de la société. Du fait qu'il y a moins d'actions, votre action augmente. Voilà. Et ça se traduit ensuite par une progression, alors normalement dans le meilleur des cas, dans une vision capitaliste, ça se traduit par une progression donc du cours de l'action, hein, à offre d'action inchangée sur le marché, l'opération de rachat d'action provoque une augmentation de la demande d'action et une augmentation du bénéfice par action.
C'est
ce qui bénéficie aux actionnaires.
Oui, alors ça par principe.
C'est ça qui est, moi c'est ça que je trouve assez magique.
Mais ce qui est assez, enfin faut imaginer quand même un rachat d'actions, c'est un peu si on devait faire un parallèle, je sais pas, avec un boucher par exemple.
Ouais, c'est comme quand Bambi est mort.
Non, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'en fait c'est du gaspillage pur, c'est-à-dire qu'en fait vous rachetez vos propres actions puis vous les brûlez. Ouais. C'est un peu comme si un boucher disait bon bah je vais faire monter le prix de la viande, donc je vais acheter 100 kilos de barbac et puis finalement
ça marche aussi pour les légumes.
Ouais, ou les légumes, ouais, enfin vous j'ai acheté 100 kilos de pommes de terre, j'en jette un demi enfin 50 kilos par exemple, ou un tiers.
La
moitié, on va prendre plus simple, il me reste 50 kilos, du coup je double le prix parce que je vais dire aux gens ah finalement j'ai que 50 kilos, mais c'est purement fictif et c'est ultra spéculatif.
Ah bah oui,
et surtout ça repose sur rien de cohérent, c'est à dire qu'en fait racheter des actions pour les cramer, à part satisfaire les actionnaires, ça n'a aucun intérêt pour l'entreprise, qu'elle fabrique, ce qu'elle fait et ce qu'elle est.
Non,
voilà.
Mais je crois que tout se tient dans la fin de ta phrase.
Ouais, c'est ça.
C'est tout pour les actionnaires.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est là, je crois que ça se joue ici. Donc effectivement, hein, bref, rachat d'actions ou dividendes, bah c'est tout bon pour les actionnaires, hein, vous l'aurez compris. Et tous ces chiffres sont des records. Et là, je suis sûr que toi, ami auditeur, ami auditrice, même dans les studios, je vois que Clara est hyper ravie.
Bah, elle a sorti les pompons, elle fait pom-pom girl, elle dit ouais, super, d'un record et tout.
Et je suis sûr que vous êtes contente et content, non? Parce que en 2021, les actionnaires n'avaient ramassé que 45,6 milliards d'euros sous forme de dividendes. Et c'est pas le pire. En 2020, durant la pandémie, ils n'ont touché que 28 milliards. Et vraiment, quand même. Ce qui veut dire qu'en deux ans, quand même, ça a doublé
quasiment.
Ça a doublé.
Doublé. Non, mais ce qui est intéressant, c'est bien ce que tu soulignes, c'est de dire, donc, je rappelle, la pandémie arrête de l'économie mondiale.
Ouais.
Quand même, on nous a expliqué quand même que pendant la pandémie, l'économie mondiale s'est ralentie de 94% pour certains secteurs, que voilà. Mais malgré le fait que l'économie était arrêtée, ils ont quand même touché 28 milliards.
Bah ouais.
C'est fabuleux quand même.
Ouais, mais c'est des gens qui prennent des risques.
Ouais, c'est ça. doit être ça. Non, mais quand on y réfléchit, c'est-à-dire que c'est le même moment où on nous a expliqué que les entreprises ne pouvaient pas faire d'efforts pour payer les salariés qu'on était obligé de protéger.
Machin.
Mais oui, parce qu'il y avait quand même une notion de protection de vie derrière. C'est-à-dire qu'on disait, on va éviter que les gens se croisent parce qu'il y a quand même une pandémie mondiale, c'est quand même mieux. Mais les entreprises, tout de suite, elles nous ont dit, oulala, on n'a pas les moyens de payer le chômage partiel, on n'a pas les moyens de payer tout ça, parce que vous vous rendez compte, machin. Mais ils ont quand même eu les moyens de verser 28 milliards aux actionnaires.
Ce sont des choix. Alors effectivement, à la vue des chiffres dont je vous citais pour 2020 et 2021, effectivement, 56,4 milliards cette année, c'est effectivement la teuf, quoi. Alors quelques détails quand même, sur qui verse quoi. Alors il faut savoir que les trois premiers groupes redistribuant des capitaux propres à leurs actionnaires ont représenté 31% du volume. Alors il y a Total Energy qui a versé 13,3 milliards d'euros de rachats d'actions ou de dividendes. Youpi. Il y a LVMH, donc ça c'est tout ce qui est Louis Vuitton, truc de luxe, quoi.
En fait,
ouais. Eux ils ont versé 7,1 milliards et Sanofi, qui ne s'est pas trouvé de vaccin mais par contre trouve des milliards pour les actionnaires, a versé 4,7 milliards d'euros cette année, enfin pour 2022. Et alors la barre en fait des 50%, donc on est parti de 31% avec ces trois premiers groupes, la barre des 50% est franchie en rajoutant quatre autres groupes à ce trio de tête, à savoir BNP Paribas, tiens, c'est bizarre ça, une banque, Stellantis, dont on a beaucoup entendu parler parce qu'ils ont reversé une participation à leurs salariés, etc.
Ouais, mais Stellantis, c'est le nouveau groupe qui est, où il y a Peugeot,
etc.
D'accord.
Et ensuite, en troisième, il y a AXA. Parce que quand même l'assurance.
L'assurance, faut que ça rapporte.
Non, c'est des gens qui ont la main sur le cœur. Et le Crédit Agricole.
Oui.
C'est quand même génial, moi, je trouve.
Mais surtout, ce qui est génial, c'est de se souvenir que le Crédit Agricole, à l'origine, du Crédit Agricole, c'est pas censé du tout faire d'argent. C'est censé être juste une banque qui permet aux paysans de pouvoir subvenir, enfin, faire des crédits aux paysans, parce que c'était une banque qui devait s'adosser, et comme la Poste, à une époque, permettait aux plus pauvres de faire des crédits. Et en fait, là, on se rend compte que c'est devenu un énorme groupe.
C'est ça. Alors, autant dire, c'est pas la crise pour tout le monde, vous l'aurez compris.
Enfin, pas pour eux.
Non, clairement pas pour eux. Et ce que je me disais, c'est il faut pas qu'on oublie quand même que c'est dans ce même monde, dans ce même pays en fait, qu'on nous demande de nous tuer à la tâche 2 ans de plus, c'est-à-dire au travail, vous savez, l'exploitation, tout ça, parce qu'il manquerait 12 milliards pour nos retraites en 2030. C'est quand même fou, 12 milliards quand tu se partages 80 milliards en une année. Enfin bon.
Moi, mais t'avais qu'à être actionnaire.
Oui, c'est ça. et justement, en fait, Rien n'est déconnecté en fait, tout est en lien. C'est ça qu'il faut garder aussi en tête en fait. Mais comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, et que vous connaissez mon goût, enfin j'espère pour celles et ceux qui nous écoutent régulièrement, pour l'internationalisme, sachez que ces records de redistribution aux actionnaires ne sont pas que français.
Oh.
Et ça, je trouve que c'est super.
On n'est pas champion du monde.
Non, il y a des champions du monde, mais ils sont vraiment dans le monde entier. Et ça s'appelle les possédants.
Ah, c'est ça.
Ouais. Alors, parce que je me dis, je pense que vous étiez, amis auditeurs, auditrices, tellement inquiets. Je l'entends, je le ressens à travers les ondes. Le milieu de l'actionnariat mondial.
Ouais.
Alors, soyez rassurés.
Moi, je commençais à ouvrir une cagnotte pour tous ces Bernard Arnault, tout ça, Elon Musk.
Faut les aider.
J'avais un peu peur, je me suis dit,
il faut les aider, les pauvres.
Ah ouais.
Donc, mardi 1er octobre, rien à voir, 1er mars 2023, une nouvelle étude montre que les entreprises ont battu un nouveau record mondial en matière de dividendes versés aux actionnaires. Là, si je pouvais, je sortirais les cotillons, le champagne, tout ça, mais
attends, bouge pas.
Mais j'ai pas. Ouais, on les félicite. On félicite les actionnaires.
Je tente un truc.
Alors, dans le monde, donc, les actionnaires se sont partagés, retenez bien ce chiffre, 1560 milliards de dollars de dividendes pour l'année 2022. 1560 milliards, soit quand même, par rapport à l'année 2021, une hausse de 8,4% par rapport donc justement à 2021, donc, et 2021 qui était l'année du précédent record de dividendes versés aux actionnaires.
Ça va crescendo, quoi.
C'est ça, c'est beau. Moi, j'ai envie de dire c'est beau, quoi. Alors, les producteurs de gaz et de pétrole, ainsi que les sociétés financières, ont représenté la moitié de cette croissance en raison, évidemment, Bah, de la flambée des prix de l'énergie.
Bah, oui. c'est la spéculation rapporte à la spéculateur, ça qui est bien.
C'est tout ça qui est très très beau dans ce monde.
C'est serpent qui se mord la queue en permanence.
Donc ces mêmes producteurs de gaz et de pétrole ont augmenté leur distribution de plus de 66% sous forme de dividendes ordinaires ou extraordinaires. Et les banques, elles, ont continué de bénéficier de la réautorisation des dividendes après leur gel par la Banque Centrale Européenne au début de la pandémie. Et elles ont contribué pour un quart de la hausse de l'année dernière.
Et elles ont rattrapé le retard.
Ben oui,
tu te rends pas compte?
Mais si, moi je comprends. Ah, mais je comprends tellement, c'est pour ça que j'en parle ce soir. C'est parce que je voulais partager leur peine. Le secteur du transport maritime, c'est vraiment, c'est pareil, c'est des secteurs dont on parle peu finalement.
Ah, pourtant c'est énorme.
Oui, et en fait, c'est eux, énorme. Ils ont profité justement à mort de la hausse en fait du fret. Il y a aussi celui de l'automobile en fait, de la hausse du prix des voitures. Et le luxe, bah comme on vous disait avant, LVMH, tout ça, dont l'augmentation continue de la demande. Et en fait, il faut savoir que ces deux derniers, donc les bagnoles et le luxe, bah, sont en fait les secteurs moteurs des dividendes en Europe.
Oui, ce qui est logique parce qu'on est gros producteurs de véhicules. Donc,
bah, ouais.
Et de luxe, du coup. Oui,
mais et de luxe, oui, c'est ça aussi.
Non, mais par contre, ce qui est intéressant, en fait, tu disais, on en parle peu du transport maritime. Oui. En fait, il y a quelque chose qui est un impensé du capitalisme souvent, mais même dans des milieux super révolutionnaires, machin et tout. C'est la supply chain, ce qu'on appelle en anglais la supply chain, c'est-à-dire en fait
la logistique.
Bah, j'avais perdu le nom en français, disons. Et en fait, la logistique, c'est le fait de transporter, de déplacer, de stocker. Et tout ça, en fait, en réalité, bah, on le passe un peu à la trappe, comme si ça n'existait pas. Or aujourd'hui, tout le capitalisme repose sur la logistique.
Ah bah oui.
Et il y a un homme aujourd'hui dans le monde dont beaucoup de gens parlent, mais on oublie d'où il se fait son pognon, c'est Jeff Bezos.
Ouais.
C'est-à-dire que Jeff Bezos, aujourd'hui, le gros de son pognon, ça vient pas de Prime Video, ça vient pas même à peine, en partie, mais pas totalement, des ventes Amazon. Mm-hmm. Ça vient en grande partie du fait qu'il est sous-traitant de supply chain, donc sous-traitant de logistique, et qu'en fait, il assure le transport, et il assure ce qu'on appelle la fluidité économique du capitalisme mondialisé. Ça fait paraître
c'est
un
beau.
Gros mot, mais c'est un gros mot. Donc en fait, voilà. Et donc en fait, bah, le gros de la fortune de Jeff Bezos, aujourd'hui, repose là-dessus, et en fait, c'est un impensé.
Oui.
C'est-à-dire qu'on le regarde très très peu, et au final, on ne comprend pas, par exemple, pourquoi, quand on commence à dire il faut consommer local, l'une des personnes qui parle en premier qui dit je vais faire des efforts sur les émissions de CO2, c'est Jeff Bezos. Mmh. Parce que lui, il veut pas que vous consommiez local. Lui, il veut que la logistique, elle continue à tourner. Parce que la logistique, ça lui rapporte. Vous voyez,
ouais.
Donc c'est vraiment un impensé. Ouais.
Mais je crois qu'à l'époque, c'était Stan, peut-être. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu sur le fait qu'en fait, Amazon, ou en tout cas Bezos, en fait, la maximum de sa thune, elle vient pas d'Amazon, parce que même je crois qu'Amazon est plutôt déficitaire, en fait.
Plus maintenant, mais il a été pendant quasiment 15 ans. Ouais.
Et qu'en fait, le maximum de sa thune, en fait, oui, vient effectivement de cette logistique, en fait. Alors après, dans le fret maritime, dans le transport maritime,
il y a d'autres acteurs. Hein.
Oui, c'est.
Bolloré, hein.
Il y a CGM.
La CGME, ouais.
Je crois que CGME, un truc comme ça. Et il y a aussi une grosse boîte du nord de l'Europe, j'ai plus son nom aussi, mais c'est pareil.
Et puis il y a les ports. Donc il y a Bolloré, avec les ports africains notamment. Il y a beaucoup d'acteurs, en fait, dont la fortune vient de là, en fait.
C'est ça. Et tout cela ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin.
Ah, on est rassurés.
Là encore, mais oui, c'est vraiment, moi, je vends du rêve, je suis là pour ça.
Ah,
c'est
du rêve aux actionnaires, en tout cas.
Ah oui, mais après, ça, moi, je veux te dire...
C'est pas de notre faute si vous êtes pauvres.
C'est vrai, ça, mi auditeur. Deviens actionnaire, en fait, merde. Non, rentre dans ce monde, à un moment donné, quoi. Ne reste pas à côté.
Arrête de te plaindre tout le temps.
Alors, en effet, un certain spécialiste du domaine projette quand même, malgré une... Attention, ils disent, malgré quand même une année 2023 d'incertitude, on peut comprendre, il y a quelques tensions mondiales, ils tablent quand même sur une petite hausse pour passer de 1560 milliards à quand même la barrière des 1600 milliards de dividendes pour l'année 2023.
Nous voilà rassurés.
Mais oui, moi c'est vraiment ça que je voulais quand même que tout le monde retienne de mon sujet, c'est qu'il faut être rassuré. Donc voilà, ça fait pas forcément du bien au moral de tout ça, même si on en rit, mais c'est vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais telle est la réalité en fait de notre monde capitaliste, où une majorité finalement sont exploités par et pour une minorité possédante qui se partagent eux le gros gâteau, parce que quand certains et certaines ont les poches qui se remplissent, bah c'est que les poches d'autres se vident en fait. Hein. Et on fera évidemment semblant de s'étonner, mieux de s'indigner que les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Et là, j'ai forcément une pensée hein, pour les politicards, les économistes et autres qui aiment à dire qu'il ne faut pas dénoncer les riches. Parce que, soi-disant, ce sont elles et eux qui feront que les pauvres le seront moins. Le fameux fumant ruissellement. Ouais. Vous le connaissez ?
La miette de gâteau qui tombe de la table.
C'est exactement ça. Prenez les miettes, allez-y, on se partage le gâteau. Alors bref, voilà hein, deux exemples. Pardon. Deux exemples supplémentaires d'un monde évidemment dégueulasse, guidé par de l'idéologie. Même si là encore, hein, quand vous écoutez les présidents, les économistes, les experts, ils s'en défendent toujours. Ils ne sont pas dans l'idéologie.
Il n'y a pas de neutralité.
Mais hein, non, mais c'est ça, ça en fait. Pas, hein. C'est qu'il n'y a pas de neutralité en fait. Mais c'est comme quand, là je reviens sur l'exemple des retraites, mais quand Macron dit il n'y a pas d'autre solution, le système est en péril. Attends, en fait, quand un système est en péril, tu m'excuses, mais il y a différents moyens d'y répondre, en fait, à une problématique.
Oui, bah oui.
Donc, c'est purement idéologique, leur positionnement et leurs propos, sauf qu'eux ne l'assument pas. Là où, finalement, à Radio Canyon, on va au moins assumer ça, c'est qu'on assume d'être politique et, de porter des idées, des idéaux politiques, quoi. On ne devrait pas en avoir honte. Donc, c'est là aussi, on se dit, mais ces politiciens, les pauvres, ils ont le pouvoir et, en plus, ils ont honte de leur idéologie.
Ouais, mais c'est surtout qu'ils savent qu'ils servent pas le peuple, quelque part, comme disent certains. Moi, j'aime pas cette expression, mais ils savent qu'ils servent pas les gens qui les ont élus. Donc du coup, il faut bien qu'ils fassent croire que. Donc du coup, ils peuvent pas dire ouvertement, si on fait la réforme des retraites à plus de 2 ans, c'est parce qu'en fait, ça va permettre d'augmenter la capacité d'emprunt de la France pour pouvoir faire des cadeaux aux entreprises multimilliardaires. c'était dur de le poser comme ça. Du coup, ils le posent en mode, oh là là, mais si on le fait pas, on va tous mourir.
Ouais. C'est un peu ça.
C'est, en fait, c'est Thatcher qui avait inauguré ça, avec This Is No Alternative.
Oui,
il n'y a pas d'alternative. Et en fait, ça vient de Milton Friedman, en fait, parce que Thatcher était une grande fan de Milton Friedman et une grande fan de l'économiste Milton Friedman. Et en fait, Friedman, dans ses livres, le dit. Il dit, en fait, le meilleur moyen de faire passer une mesure qui n'est pas populaire, c'est de faire peur. Et il le dit, il l'écrit, la théorie est théorisée. Je suis Friedman, il le cache pas. Et il dit, il faut toujours tirer le truc vers le pire du pire. Comme ça, les gens, ils se disent, oulala, mais alors si c'est pas ça, c'est le pire. Donc, du coup, ils acceptent la mesure. Et c'est le fameux, il n'y a pas d'alternative, et ça donne ça. On est obligé de mettre 2 ans de plus, sinon on va tous crever. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est... Ou alors, c'est si on fait grève et qu'on bloque le pays.
Les dinosaures vont disparaître. L'eau va pas pleuvoir.
Alors, oui, évidemment. Évidemment, j'aimerais voir crever ce monde de mon vivant, même si je sais que ça n'arrivera pas, au bénéfice évidemment d'un monde fait d'entraide, de solidarité, de partage, d'équité, mais comme dit, ça se fera pas en 2 secondes, et ça se fera pas non plus sans observer et dénoncer ce monde, mais aussi surtout, j'ai presque envie de dire, ça se fera pas sans politiser tout ça, et sans tomber non plus, alors dans de la caricature, peut-être que ce soir je suis caricatural, hein, mais c'est essayer de poser des faits et en fait et regarder ce qui se passe en fait, on être dans du factuel en fait et sortir justement des projections fantasmées des politiciens qui nous vendent des trucs etc. Non en fait factuellement il faut vraiment essayer de poser ça en sortant un peu de passion. Je sais pas si c'est compréhensible.
Ouais, tu veux dire, faut pas être dans l'exaltation. Il faut
pas trop, et en même temps, je
un peu dans la raison aussi. Quoi.
Alors que je suis toujours dans l'exaltation. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Bref, penser le monde par la critique, mais aussi par la proposition, en fait, pour justement dessiner d'autres demain, d'autres possibles que l'égoïsme capitaliste, la haine et autres projets d'exclusion et d'accaparement, parce que finalement, c'est un peu tout ça qu'on nous offre, quoi. Vu qu'il n'y a pas d'alternative, hein, même là, en fait, on est toujours.
Il n'y a plus
d'alternative, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut accepter le capitalisme comme il est. Alors, avec quelques petits ajustements en marge pour les gens qui voudraient être un peu de gauche. Mais en fait, il y a d'autres possibilités, quoi. Donc, c'est aussi ça, c'est dépasser un peu les schémas qu'on nous a rabâché depuis qu'on est né, quoi, et que les alternatives, certaines sont mortes dans le passé, hein, je veux dire le communisme autoritaire, tout ça, hein, ça on a bien compris que c'était de la merde, mais il y a d'autres possibles en fait, et que c'est aussi ça, je pense qu'il faut aussi se repermettre de retourner dans l'utopie, L'utopie d'hier sont des réalités d'aujourd'hui, hein, pour certaines, hein, faut quand même pas se mentir. Je pense que ceux qui, il y a quelques années, quelques dizaines, centaines d'années, parlaient de congés, de ne plus travailler, faire travailler les enfants, on devait leur dire, mais vous êtes fous, vous êtes des utopistes, ben en oui, fait. Vous voulez tuer la société, vous voulez... Alors qu'en fait,
vous voulez tuer
les dinosaures, enfin bon, bref, tout ça. Et en fait, non, il faut vraiment, je pense, redépasser tout ça, se permettre un peu de rêver à d'autres choses, quoi.
Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est qu'il faut arrêter aussi d'attendre l'homme ou la femme providentielle. Ça n'existe pas. Ouais. Il faut arrêter de croire que dans l'histoire, les choses se sont faites parce qu'un homme ou une femme avait décrété quelque chose. Les combats, ils sont toujours collectifs. Ils sont jamais individuels. Il n'y a pas une personne qui change le monde à elle toute seule.
Même si c'est la République.
On a toujours l'impression comme ça. Et en fait, il faut tous et toutes s'emparer de ces sujets. Moi, je le dis souvent, l'économie, c'est pas une science. En fait, l'économie, c'est assez simple à comprendre, réellement. Simplement, on a toujours des gens qui viennent en parler avec des mots très compliqués.
Oui.
Pour en fait dire des choses qui sont pas si compliquées que ça. Voilà. Et je fais juste un peu de pub, je fais une petite parenthèse. Il y a un gars qui s'appelle Stupid Economics qui fait des super vidéos que vous trouvez assez facilement sur Pertube, YouTube. Je crois qu'il est aussi sur Twitter, il me semble. Non, il est plus sur Twitter. Ou sur Mastodonte. Voilà. Donc, ça s'appelle Stupid Economics. Donc, voilà. Et il fait de la vulgarisation économique. Et vous allez comprendre qu'en fait, des fois, quand on emploie des mots très compliqués, en fait, c'est juste pour dire des choses très simples, mais qu'on veut pas que vous compreniez.
C'est ça, en fait. Mais on retombe aussi sur le pouvoir par le vocabulaire, etc.
Il faut s'armer la tête.
Bref, pardon. Il est 22h26. Je vais m'arrêter là. Et on va passer à la musique.
Don't look, don't see, don't pay any attention. Don't waste my time to tell me lies. Protection. Don't wait for me. Got nothing here to capture. And all I wish for you.
toujours à l'écoute de Radio Canut et c'est toujours la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et là, on vient de s'écouter un titre de DJ Pon en compagnie de Jeanne Haddad avec le titre Tension.
Ouais. Oui, il y a Jeanne Haddad, c'est forcément bien. Je peux le dire en antenne. Voilà.
C'est pas faux.
Je suis pas du tout objectif hein, là-dessus, mais bon.
Alors, Fab, tu vas, toi, prendre le micro pour.
Pour plomber la soirée.
Deuxième moi, fois. Je crois
toi
que... aussi.
Oui, c'est ça, en fait. Oui, on est de retour. Donc, tu vas nous parler fissure nucléaire.
Oui.
Et non. Pas non.
Ah, mais je pensais pas que tu oserais faire cette blague. Donc, du coup, je vais vous parler de fissures sur des réacteurs.
Ouais.
Voilà. J'ai envie de dire, l'annonce, elle est arrivée un peu en mode, ben mince, c'est percé.
Ah, voilà,
donc, depuis quelques temps, on a quand même, on nous vend hein, le nucléaire comme l'énergie du futur, décarbonée, sans souci, sûre, tout ça. On dit même qu'on va reconstruire encore des réacteurs, voire des mini-réacteurs. Enfin bref, plein de réacteurs.
Oui, parce qu'en plus, c'est de l'indépendance énergétique totale.
J'y viens, après. On a même un gars hein, qui passe sur tous les plateaux pour le dire en ce moment et qui n'est même pas ministre. Hein, c'est monsieur Jean Covici, hein, qu'on voit un peu partout en ce moment nous vendre le nucléaire. Bon, même s'il commence en ce moment à nuancer ses propos, parce qu'il s'est un peu rendu compte que ça allait un petit peu trop loin, sa vision des choses. Bon. Mais il y a un truc qui tombe quand même assez mal, c'est que la France, elle a encore quelques autorités de sûreté qui font un tout petit peu leur travail. Et le dernier rapport qu'elle rend n'est pas vraiment optimiste. Il y a une de ces autorités qui s'appelle l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, l'IRSN, il vient de tirer la sonnette d'alarme. Pour elle, EDF a volontairement minimisé les contrôles et ne les a pas assez étendus à l'ensemble du parc nucléaire et pas assez sur l'ensemble des installations, quelle que soit leur criticité. Voilà. Cette phrase fait peur, mais oui. Voilà, c'est que vraiment ça fait peur. C'est-à-dire que quand on a un institut quand même que pas non plus connu pour sa virulence absolue, qui lui quand même dit vous avez pas un peu fait n'importe quoi là depuis quelques années, ça a de quoi inquiéter. Alors attention, il faut pas confondre l'IRSN avec l'ASN qui est l'autorité de sûreté nucléaire, même si celle-ci arrive d'ailleurs aux mêmes conclusions. Donc deux institutions. Deux fois les mêmes conclusions, on peut se dire, ça sent pas très très bon.
Ouais. Pardon, mais enfin rien à voir, toujours sur le sujet. Mais c'est pas ces deux instituts qui veulent.
Celles qui veulent fusionner, et puis si possible leur enlever des moyens.
Oui.
Voilà, parce que ça commence un petit peu, ils font leur taf. Donc voilà. Non, alors je vais juste faire la différence entre les deux. Ouais. Il y en a un qui est pour l'exploitation, c'est l'ASN en fait, donc l'autorité de sûreté nucléaire, et l'IRSN en fait c'est plus sur les risques de contamination ou les risques pour les salariés.
Okay.
En gros, c'est un peu leurs deux credos.
Ouais.
Voilà. Donc, bien sûr, on nous vend qu'il faudrait réunir les deux, alors que c'est tellement quand même beaucoup mieux d'avoir deux choses qui sont côte à côte dans ces cas-là, plutôt que deux choses fusionnées où il n'y aurait qu'un seul patron. Oui. Et qu'est-ce qui peut bien leur faire dire cela à ces deux institutions quand même connues? Eh ben, rien de bien grave, sauf que la découverte d'en fait de deux fissures sur des soudures et des tuyauteries reliées à des réacteurs, hein, voilà, et qui font transiter des fluides importants pour l'alimentation des circuits de refroidissement, notamment sur la centrale de Penly. Voilà.
Je la refais. Voilà. Oh, tout de suite. Vous avez jamais eu de fissure dans vos tuyauteries de maison?
Ouais, alors quand ça fuit chez moi, c'est pas grave. Quand ça fuit là, ça peut être radioactif ou ça peut emballer un réacteur. Bon.
Ah ouais, bon. Vous êtes un petit peu tatillon.
Voilà, on est tatillon. Donc, alors au départ, EDF a dit, comme d'habitude, mais c'est connu, la fatigue thermique qui entraîne des fissures. Voilà, circulé hier, rien à voir. Sauf que, comme le soulignent les experts dans leur rapport, alors le rapport, il est visible. Hein, je suis allé le voir, hein, donc vous pouvez aller le voir. C'est pas un truc caché. Hein. Elles n'étaient pas du tout attendues, en fait, les fissures à cet endroit-là. C'est-à-dire que, oui, hein, ça existe, hein, la fameuse fatigue thermique, il n'y a pas de problème, mais c'était pas censé arriver là, en fait. Donc, il y a comme un truc qui est bizarre. Pour traduire, en fait, EDF ne maîtrise pas vraiment le vieillissement de ses réacteurs et découvre de nouvelles choses chaque jour. Donc ça nous rassure, hein, quand même.
C'est super.
Pas très rassurant, mais voilà. Amis lyonnaises et lyonnais, je vous rappelle, parce que vous en rappelez peut-être pas, que nous sommes en risque nucléaire haut à Lyon, parce que nous avons la joie et le bonheur d'avoir 303 réacteurs nucléaires à proximité de la ville qui, en cas d'emballement, nous irradient. Voilà. Bon, voilà. Alors, comme je suis cop à Chauvin, c'est à peu près pareil le long de la Loire, le long du Rhône, le long du Rhin. Voilà. Bonne soirée. Alors, on va quand même revenir sur cette notion de fatigue thermique. Qu'est-ce que c'est donc que ça ? Alors, je vais le dire, comme je suis pas très très doué dans ces trucs-là, je me suis permis d'écrire un petit message à quelqu'un que je connais qui est sur Facebook, et donc c'est le métier. Donc il m'a dit, je vais t'envoyer ce que c'est. Et ben j'ai pas compris. Donc après, il m'a envoyé un truc plus simple. Donc le terme de fatigue thermique, en fait, ça décrit un mécanisme d'endommagement dû à des variations répétitives de température sur une zone et ce sur une longue durée. Alors l'exemple qu'il me donnait, c'est par exemple, vous avez un fluide froid, un fluide chaud, un fluide froid, un fluide chaud, un fluide froid, hein, qui arrive, donc le tuyau il se compresse, il se détend, bon, au bout d'un moment ça peut faire des fissures. En fait c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié, et comme me le soulignait, et il voulait pas que je le cite, alors je le cite pas mais il se reconnaîtra, il me dit c'est en fait étudié que depuis la fin des années 90. Parce que, en fait, jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop, on savait que ça existait, mais l'étude vraiment, de façon optimale de ce phénomène, ça date des années 90. Donc, c'est-à-dire, en fait, largement après la construction de la plupart des centrales nucléaires du parc français, hein, pour être clair. En fait, ce qui fatigue la tuyauterie, c'est que les fluides froids et les fluides chauds, donc, circulent parfois alternativement, parfois en même temps, et parfois ils se mélangent au même endroit tout le temps. Et donc tout ça, en fait, ça crée des contraintes physiques sur la tuyauterie qui peuvent entraîner des fissures. Alors, les fissures dont je vous parlais, hein, elles sont notées comme très graves, mais c'est 57 mm. Hein, c'est 5,7 cm, pour ceux qui ne parlent pas en millimètres. Mais c'est grand, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas une petite fissure, c'est pas genre un petit trou, vous voyez, c'est une fissure, quoi. Olivier Dubois, hein, qui est le patron de l'INRS, hein, tout simplement, enfin qui est un des patrons de l'INRS, sur France Info, il a dit, tout simplement, il faut bien concevoir les tuyauteries dans les zones où il y a des mélanges entre les fluides froids et les fluides chauds. Voilà. Alors, il disait ça en réponse à la question du comment on fera sur les futurs réacteurs. Voilà. Mais comme il le souligne juste après, sauf qu'on ne savait pas ça avant. Donc, tous les réacteurs actuels ont des zones où ça se produit et où on n'a pas prévu que ça se produise. Voilà. Sauf que donc, si on peut aujourd'hui les changer, hein, ces tuyauteries, c'est parce qu'en fait, on a progressé dans la connaissance de ce phénomène pour l'éviter. Mais du coup, une question se pose. Pourquoi EDF traîne des pieds ? Ben oui, parce que quand même. Eh bien, c'est oublier que les points de corrosion repérés par l'ASN il y a quelques années n'ont d'ailleurs pas, eux non plus, été pris immédiatement en compte par EDF. Souvenez-vous, l'ASN fait un rapport, c'était il y a 7-8 ans, et dit, il y a des points de corrosion qui ne devraient pas être là. EDF dit oui, oui. Et puis deux ans après, l'ASN revient, il y a toujours des points de corrosion. Elle dit, il y a toujours des points de corrosion là. Et EDF dit, ah oui mince, on avait oublié de faire quelque chose. Et en fait, c'est finalement la contrainte, parce qu'il a fallu que l'ASN menace EDF de lui mettre des pénalités financières, et qu'il y ait une contrainte aussi pénale, parce qu'il y a aussi des associations qui avaient porté plainte, qui est obligée à changer les pièces concernées. Donc vous voyez, c'est un petit peu, on voit pourquoi ils traînent des pieds quoi.
Mais ce qui veut dire qu'en fait, quand il y a des observations comme ça, il n'y a absolument aucune...
Ah si,
il y a une obligation
théoriquement.
Okay. Sauf mais qui n'est pas si vous le faites pas, on vous met une amende quoi.
Ah bah si, sauf qu'en fait l'EDF s'en est carré l'oignon, pardon, excusez-moi pour l'expression, mais en fait ils ont laissé couler en disant bon, on paiera, c'est pas grave, vous voyez, voilà, parce que ça coûtait plus cher de refaire la tuyauterie. Voilà, donc on peut donc sans doute comprendre hein, que les tuyaux pour à changer hein, pour les risques de choc thermique n'emballent pas finalement l'exploitant EDF hein, pour voilà. Parce que, selon les estimations, elle représente 30% de la tuyauterie actuelle. Ouais, un tuyau sur trois, quoi.
C'est énorme.
Ah ouais, ça
et
fait du taf. Hein.
Sur les 56 réacteurs que
compte. Ah bah oui, sur les 56, oui. Parce que,
55.
Ah bah, maintenant 54, parce que Fessenheim, il y en avait deux. Donc voilà, mais oui, sur tous les réacteurs qui sont encore en activité. Donc, il y a aussi, hein, parce que quand même, quelque chose qui a émergé, c'est la mise en danger des travailleurs et travailleuses. Ah ouais. Parce que le problème, c'est que contrairement à ce qu'elle affirme, l'industrie nucléaire n'est pas aussi simple qu'on le pense. Parce qu'on nous vend ça comme si c'était une sorte de chaudière à vapeur, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et par exemple, ce qui est irradié a été prévu pour ne pas être retiré souvent, voire parfois jamais. Sauf en cas de démantèlement, évidemment. Mais en gros, la zone radioactive, on évite d'aller y retoucher. Vous voyez, parce que c'est pas terrible. Or, les tuyaux à changer seront pour certains dans des zones de forte radioactivité. C'est embêtant. Vous voyez, petit truc qui se passe là. Et là se pose le dilemme assez odieux. Mettre en danger des salariés qui vont aller changer ces tuyaux pour continuer l'exploitation de la centrale ou démanteler la centrale. Voilà. Malheureusement, hein, vu le petite musique qu'on entend en ce moment et notamment de la part de notre président de la République, on se doute que la réponse sera de mettre en danger des salariés et sans doute de les exposer à des doses de radiation hors normes. Évidemment, ça va créer des déchets. Le démantèlement est terriblement complexe. L'irradiation des travailleurs et travailleuses risque de se produire. Et puis, on va quand même le rappeler, hein, la soi-disant, comment tu disais tout à l'heure,
indépendance
n'existe pas. L'uranium, aujourd'hui, vient de mines et de pays peu regardants sur la protection de leur population. Le Kazakhstan, le Niger, l'Ouzbékistan. Alors, on va aussi rappeler que Greenpeace vient d'ailleurs de le démontrer. La France achète toujours de l'uranium à la Russie. Mm-hmm. Bon, alors, officiellement, il passe par l'Inde ou l'Ouzbékistan. Bon, ouais, c'est pas parce que t'as changé l'étiquette que ça vient pas au départ de la Russie, hein, mais bon. Décidément, en fait, le nucléaire, la solution miracle, en fait, en prend un sacré coup. Ouais. On voit que la liste est longue, quand même, des risques, ne serait-ce que là, et sans parler des risques potentiels sur les populations, hein, puisque c'est aussi, quand même, ce qui se pose aujourd'hui.
Mais je me dis que les pouvoirs politiques trouveront bien une petite truc pour
fusionner les deux.
Ouais, non, mais même aussi pour ceux et celles qui vont aller faire ce genre de travail, parce que je me souviens à une époque les jumpers.
Ça existe déjà. C'est-à-dire que j'en avais déjà parlé dans la causerie. Hein, c'est que les jumpers sont majoritairement des gens qui sont issus j'ai perdu le soit des Roms, oui. Soit des gens issus des gens du voyage, comme ouais. On disait à une époque, ou des Tziganes, tout ça. Parce qu'en fait, à une époque, on les a spécialisés dans ce truc-là. Puis comme ils se plaignaient pas trop, c'était cool. Enfin, ouais. Pardon, je suis très cynique, mais il faut se rendre compte que nos parcs nucléaires aujourd'hui tournent parce qu'on a des gens. Alors, comme ces personnes ont commencé à se syndiquer et qu'elles faisaient un peu chier le monde, du coup, en se syndiquant, on est allé chercher des gens encore plus pauvres dans l'Europe de l'Est pour les ramener et dire vous ferez bien ça, et puis c'est cool, vous faites un bon salaire, et puis c'est bien quoi. C'est des gens qui sont exposés à des doses de radioactivité assez élevées. Mmh. Souvent, ce sont des sous-traitants, donc du coup, EDF s'en lave les mains en disant c'est pas ma faute, c'est sous-traitant. Donc voilà, donc on connaît un petit peu comment ça se passe dans ces cas-là. Donc non, hein, c'est déjà très crade aujourd'hui.
Oui, hein, c'est ça. Ça sera pas mieux dans cette situation-là.
Ah non, clairement. Alors, est-ce qu'il y a un risque à moyen terme ou un risque immédiat? Ça, c'est la grande question qui se posait. Alors, selon les spécialistes de la question, hein, parce que là, je suis allé voir plusieurs sites, des écolos et des pas écolos, parce qu'il faut essayer de croiser ses sources. Et même, d'ailleurs, selon les militants antinucléaires connus comme la CRIRAD, on peut pas dire que la CRIRAD, c'est pas des gens qui font pas le taf, le risque n'est pas immédiat, même s'il existe. C'est-à-dire que pour eux, ils disent aujourd'hui, on n'en est pas non plus à se dire la centrale va exploser demain. D'ailleurs, ça n'explose pas une centrale, je rappelle, hein, c'est un cœur qui fond, c'est pas du tout la même chose. Mais par contre, tous soulignent, y compris des pros nucléaires, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a l'Alliance européenne pour le nucléaire quand même qui vient de dire bon là quand même ça craint un peu. Et pourtant, c'est pas les mecs les plus anti-nucléaires du monde. Hein. Ça va quand même crescendo, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que rien n'est fait, le risque augmente. Et puis si rien n'est fait rapidement, le risque va augmenter rapidement. Et c'est un peu ce qui inquiète tout le monde. Le souci, hein, c'est qu'on a des centrales qui ont été conçues à une époque où les connaissances n'étaient donc pas aussi poussées qu'aujourd'hui en termes de matériaux. Et des centrales qui n'avaient jamais été pensées au départ pour être poussées au-delà de 30-40 ans. Bon, il y en a certaines, hein, je vous rappelle, Emmanuel Macron vient de le dire, elles pourraient, d'après lui, aller jusqu'à 60 voire 70 ans. C'est-à-dire doubler la durée de vie d'origine de la centrale. C'est juste une aberration. Alors, je sais que le parallèle va vous paraître bizarre, mais vous avez tous, peut-être pas tout le monde, mais vous avez tous déjà vu des voitures. Mmh. Bon, vous avez tous remarqué qu'une voiture, plus elle vieillit, plus les pièces d'usure, en fait, une centrale, c'est pas tellement différent. C'est un truc où il y a de la mécanique, où il y a des usures naturelles, normales, où les matériaux s'usent. C'est du métal, hein. Donc, chez vous, vous savez que des fois, vous avez des fuites qui se produisent sur un tuyau. D'un coup, il pète, vous savez pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, à ce point-là, il s'est usé pendant des années, puis ce jour-là, il a fui. En fait, les centrales nucléaires, c'est pas différent. Ce sont des tuyauteries, voilà. Il n'y a pas de truc magique, je sais pas, c'est pas en Kevlar, c'est fait dans les mêmes matériaux à peu près, Donc, on est en train, en fait, de jouer avec l'avenir et de continuer à tirer sur la corde en mettant, le moins de moyens possible, hein, parce qu'il faudrait quand même pas déconner. Il y a des actionnaires chez EDF quand même. Et aujourd'hui, c'est 100% l'État. Il faut que ça rapporte quand même. Donc, déconnez pas. Hein, oui, je vous rappelle que l'État n'a pas nationalisé EDF. Ils ont racheté des actions. Ce qui est pas la même chose. C'est qu'ils sont actionnaires majoritaires. Et du coup, Ouais, oui, pardon.
Non, mais et on peut aussi rappeler quand même que même à l'époque, enfin, où on parlait beaucoup de démanteler, etc. Mmh. En fait, on sait que EDF n'a absolument pas prévu.
Ah non, il y a rien de prévu.
Les finances, le coût, en fait, du démantèlement, quoi.
Alors, je ne sais pas ce que j'ai lu est vrai. Il y a un député européen. Alors, je vais pas citer son nom, mais qui est dans le groupe socialiste européen. Mmh. Donc, on peut pas dire que c'est même pas un écolo, vous voyez, de là. Qui lui a dit qu'en fait, EDF aurait provisionné 7 milliards. Là où il en faudrait 77. Voilà, donc je sais pas, voilà.
Il va manquer quelques thunes. Un
fois 11. Ouais. donc voilà, mais c'est bon, c'est lui qui l'affirme. Je cite pas son nom parce que je veux pas le mouiller non plus, mais je l'ai lu et je pense que si vous fouillez, vous trouverez peut-être des trucs un peu comme ça aussi. Moi, ça m'a surpris, mais en même temps, ça me surprend pas tant que ça parce que un démantèlement de centrale, c'est extrêmement coûteux. Je crois que pour Fessenheim, ils annonçaient un chiffre qui oscillait autour des 2 milliards. Donc on imagine bien, il y a 56 réacteurs. Vous faites le calcul, ça va très vite. Hein. Donc voilà. Et du coup, si on suit la courbe actuelle et les choix qui sont pris, le risque d'accident majeur ou non à moyen terme, parce qu'on peut aussi avoir des accidents mineurs, mais qui peuvent avoir quand même des impacts assez importants, notamment la coupure d'électricité, tout simplement, sans parler de fuite radioactive, parce qu'on va pas non plus se faire peur à dire il y aura forcément une fuite radioactive. Ça peut arriver et on espère que ça n'arrivera pas, mais ça peut être aussi la centrale qui tombe en rade, hein, tout simplement. En fait, à moyen terme est de plus en plus élevé, en fait. Sauf qu'on ne parle pas là, encore une fois, de bonbons ou de tacos. Hein. On parle quand même de centrales nucléaires, donc c'est un petit peu gênant. Alors, il va falloir qu'on pense l'énergie autrement. Alors, penser l'énergie autrement, déjà, je le redis dès le départ, c'est moins en consommer. Hein. Premier truc, c'est ça. Donc le choix du nucléaire, il a été imposé il y a des années, hein, sous un général qui voulait sa bombe. De Gaulle, pour pas le citer. Depuis, en fait, il n'a pas été repensé, mais surtout, il n'est jamais soumis à une interrogation large de la population. Les mensonges qui l'entourent, la soi-disant indépendance énergétique, par exemple, hein, alors qu'on dépend des filières uranium, et qu'il n'y a pas plus d'uranium en France, ou quasiment plus, et cette pseudo-fierté patriotique qui entoure l'excellence française sur le nucléaire, alors qu'on découvre surtout que pas mal de choses ont été impensées, hein, comme on peut le voir, et puis mises sous le tapis, n'aide pas. Le nucléaire, est défendu en France des gaullistes aux communistes. Faudrait pas oublier, hein, c'est logique. C'est les deux faces, c'est les deux forces politiques à l'époque, les gaullistes et les communistes, qui étaient majoritaires dans le pays quand ce choix a été imposé, et les deux étaient d'accord. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier ça. C'est-à-dire que historiquement, qu'aujourd'hui Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, défend le nucléaire, n'a rien de surprenant parce que c'est dans l'ADN du Parti communiste. Donc c'est historique, c'est comme ça.
Voilà. Oui, on pourrait aimer qu'il y ait, on va dire,
une évolution,
un esprit critique sur ce qui a pu être défendu, sauf que non.
Non, clairement pas. Et il faut pas se mentir là-dessus. Enfin voilà. Ouais. Donc il serait temps quand même de poser clairement et collectivement les choses, les risques et les choix. Parce que ça, en fait, ce dont on manque, à mon avis, avant tout, c'est d'un grand débat, d'une grande réflexion sur l'énergie, sur comment on la consomme, sur ce qu'elle est, sur ce qu'on veut faire et ce qu'on veut en faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on laisse ça dans les mains de quelques politiques et puis on dit, gérer. Sauf qu'en fait, il y a aussi des choix qu'on peut nous-mêmes voir. Un exemple, et je suis pas un grand fan de ça, il y avait eu la conférence citoyenne sur le climat, qui avait bossé pendant des mois et des mois, et en fait, alors que dans ce truc-là, il y avait aussi bien des gens qui étaient quasi d'extrême droite et des gens qui étaient quasi d'extrême gauche, ou même d'extrême gauche et d'extrême droite, et qu'il y avait des gens extrêmement divers à l'intérieur, ils étaient arrivés à un consensus où ils tombaient d'accord sur le fait que il faut sortir du nucléaire ou diminuer drastiquement le nucléaire, il faut aller vers une sobriété énergétique par des moyens, machin. Enfin, ils étaient allés très loin dans le fait de penser la façon dont on pouvait faire les choses. Donc je pense, moi sincèrement, que si on se mettait autour d'une table tous et qu'on réfléchissait ensemble, en fait on trouverait des solutions plutôt que de dire il n'y a pas d'alternative. On revient à ce qu'on disait. Parce que si collectivement en fait on veut prendre ces risques, ok, alors si on dit que majoritairement et collectivement on est ok pour penser, ok, mais le problème c'est que si c'est pas le cas, va quand même falloir nous repenser notre dépendance et l'accès à l'énergie, parce que sinon on fait prendre les risques à tout le monde, alors que la majorité est contre. Oui. Ah, c'est comme la réforme des retraites, ça marche pas.
C'est ça.
Donc c'est largement faisable, en fait, en réorientant ce qui est mis dans le nucléaire ailleurs, parce qu'en fait, il faut voir que c'est des sommes énormes, et en réalité, on peut faire les choses autrement, on peut penser autrement les choses, on peut faire plein de choses pour diminuer notre dépendance à l'énergie en général. Mais de faisable à souhaitable, en fait, il n'y a qu'un pas, c'est de s'emparer du sujet politiquement, et c'est aussi s'en emparer individuellement. C'est à ne pas dire moi je peux rien faire et tout. Alors je suis pas en train de dire les petits gestes, machin, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que c'est des sujets auxquels vous avez le droit d'avoir une opinion. Vous avez le droit de vous renseigner, vous avez le droit de creuser dessus. et vous n'êtes pas plus bête qu'un autre ou qu'une autre. Et voilà.
Bah ouais, bah, que ça soit nucléaire, économie ou autre,
ouais, faut
la vie, ça nous appartient, quoi. Donc
c'est
il faut
ça.
Qu'on s'en empare.
Et histoire de bien finir cette chronique avec une chanson super joyeuse,
ouais.
On va passer à la musique.
Youpi!
Attendre demain sans but particulier, c'est quoi ce chemin? Apprendre à se détester, traumatisme crânien, traumatisme, je suis affecté. C'est quoi ce chemin? C'est quoi la finalité? Je ne dors plus, mais je suis épuisé, mais je ne dors plus, mais je suis fatigué, mais je ne dors plus. Ça reste à prouver, c'est quoi ce pétrin? C'est quoi la finalité? Traumatisme crânien, traumatisme, je suis affecté. C'est quoi ce chemin? Apprendre à se détester.
De retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org et on vient d'écouter Bébli et son nouveau titre avec Attendre demain. Et moi j'aime beaucoup Bébli, enfin je crois qu'à la causerie on aime tous beaucoup Bébli et qu'on avait reçu d'ailleurs dans l'émission il y a quelques temps de ça. Donc vous tapez Bébli dans le moteur de recherche parce que je me rappelle plus du
nom. Je crois que c'était à l'époque du confinement. Non,
ouais, c'est ça. Et là il va ressortir un EP, je crois, tu disais Jean-Yves,
intitulé Corias,
voilà.
En mai 2023.
Voilà, donc du coup bah, écoutez Bébli, ouais. C'est vachement
bah, ouais, enfin en tout cas là l'EP le précédent et celui à venir, c'est vraiment ce côté très épuré, alors ouais. Que ce qu'il faisait avant était beaucoup plus rock, et c'est vrai que enfin moi j'aime bien cette nouvelle version très épurée.
Et j'attends avec impatience les quatre autres titres qu'on passera dans l'émission, vraisemblablement.
C'est ça. Très voilà. Certainement.
Bah, du coup, on va faire quelques petites annonces pour cette semaine. C'est moi qui commence, c'est ça?
Ouais. Ouais.
Bah, donc, du coup, bah, l'annonce, elle va être simple. Hein, c'est que le 15, tous dans la rue et toutes dans la rue. C'est à partir de 11h à la manufacture des tabacs, théoriquement. Pour aller jusqu'à Bellecour, si tout se passe comme prévu. C'est à l'appel de l'intersyndicale, évidemment. C'est contre la casse des retraites. Évidemment, on aimerait bien que l'économie soit à l'arrêt et tout, mais ça se décrète pas avec un voilà. Donc on est bien conscient que tout le monde peut pas faire grève, enfin je sais pas comment dire, mais que tout le monde se lance pas dans le mouvement. Et c'est pas grave, mais juste à un moment donné, bah, essayez d'être là quand même dans la rue si vous pouvez. Sinon, je voulais juste signifier quelque chose, enfin signaler quelque chose, pas signifier, je suis fatigué moi. Signaler quelque chose. Il y a beaucoup de caisses de grève un peu bidons qui sont en train d'être montées à droite à gauche. Parce que comme à chaque fois qu'il y a un mouvement comme ça, hein, vous voyez apparaître ça, alors, surtout sur les réseaux sociaux. Hein, d'un seul coup, caisse de grève pour les éboueurs de Paris, caisse de grève pour machin. Alors j'ai juste rappelé une chose. Si vous voulez des caisses de grève qui sont vraiment des caisses de grève, rapprochez-vous des syndicats. Parce que c'est quand même ceux qui généralement la montent le mieux, ou de collectifs que vous, qui sont déjà connus pour faire ça, comme il y en a un sur Lyon, la caisse de grève de Lyon, qui existe, mais qui est un collectif connu que voilà, que vous pouvez interroger, que vous savez où les trouver, parce que les caisses de grève en ligne sur Litchi ou autre truc comme ça, lancées par Pierre-Paul Jacques, soi-disant pour soutenir machin et truc, en fait ça va vite hein, de récolter de l'argent. Par contre, être sûr que ça aille à ceux qui sont et celles qui sont en lutte, c'est moins sûr. Donc voilà, faites attention. Attention.
Ok, mais il fait plus de musique alors ?
Qui ça ?
Pierre-Paul Jacques. Voilà.
Oh là là ! Oh là là !
Il est tard, il est bientôt l'heure de rendre l'antenne, parce que moi aussi je fais des mauvaises blagues. Dernière info, juste en fait, c'est un peu un appel à soutenir de différentes manières. Mais en tout cas, il faut savoir qu'à Lyon, un nouveau squat a été ouvert pour les mineurs qui sont en recours et sans hébergement, évidemment, jusqu'à maintenant. Donc, il a été ouvert rue Néret, c'est dans le premier, si je me plante pas. Et en fait, ils sont à la recherche en fait de matériel tel que des tables, des chaises, des lits, des sommiers, des matelas, des bouilloires, des lampes, de la vaisselle, des serviettes de bain, enfin vraiment les choses élémentaires, mais parce que c'est un nouveau squat, donc il faut tout ce qu'il faut pour vivre, quoi, à peu près
décemment.
Donc voilà, donc hésitez pas. Alors pour les contacter, ce que je disais, c'est un peu compliqué, mais ça se passe beaucoup sur les réseaux. En tout cas, je sais que sur Facebook par exemple, c'est le collectif Soutien Migrants Croix-Rousse. Donc eux, vous pouvez les contacter, vous voyez directement avec eux, parce que ce qu'ils veulent aussi éviter, c'est effectivement de se retrouver avec 15 tables, ça ne sert à rien.
Ah bah oui, clairement.
Donc c'est pour être au plus près de leurs besoins, donc n'hésitez pas, si vous savez que vous avez quelque chose, n'hésitez pas à les contacter pour voir s'ils en ont encore besoin. Sinon, vous pouvez toujours déposer ailleurs, mais voilà, il y a des besoins vraiment importants pour ce nouveau squat pour les mineurs. Voilà. Et ben je crois qu'on s'arrête là, on a fini.
Ouais.
On vous donne rendez-vous dimanche prochain, on va se quitter en musique et c'est Clara qui annonce le dernier titre si je me trompe pas.
Oui, c'est ça. Donc c'est My Cosmos Is Mine de Depeche Mode.
Ah, parce qu'elle met un truc super mainstream et tout.
Quelle pourriture!
Ouais,
bon, allez, c'est
la prochaine fois, t'annonceras tout seul.
Mais c'est moi qui ai choisi ce titre parce que j'adore Depeche Mode, parce qu'ils sont de retour, parce que c'est leur nouvel album. Et
parce qu'on sait que le plus mainstream de nous trois, c'est toi, quoi.
Mais oui, de toute façon, c'est vrai. Et je l'assume.
Bah, t'as pas le choix, vraiment. Et ben, nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, toujours dimanche de 22h à 23h sur l'antenne de Radio Canu. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, bon courage pour la semaine à venir. Des bisous.
Des bisous.
Ciao.
your girl.